Il y a bien du monde qui ont vu du spectacle de conte fait par du monde qui n'était pas du tout en contrôle de ce qu'il était en train de faire. Ce qui fait qu'il y a du monde qui ont scrappé des oreilles. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte. Ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Dans ce 22e épisode, je vais vous parler des obstacles du conte. Quand j'ai demandé à mes chums conteurs-conteuses, je lui demandais « Bon, y a-t-il des sujets que vous trouveriez intéressants que je couvre dans un balado qui parle de conte? » Et puis, un des trucs qui est sorti, c'est les obstacles, les défis du conte. Qu'est-ce qui est le propre du conte comme obstacle que tu n'auras pas dans d'autres disciplines artistiques, par exemple? Un des obstacles quand tu essaies de vivre du métier de conteur ou conteuse d'histoire, un des trucs qui revient le plus, c'est l'heure du conte. L'heure du conte, c'est quoi? C'est dans les bibliothèques municipales, par exemple, les dimanches matins, on va avoir un homme, une femme qui vient lire des contes ou dire des contes. Et c'est pas mal en soi, mais pas du tout. Sauf que ça vient cristalliser quelque chose, c'est que ça s'adresse à un public jeunesse. Et ça, il y a énormément d'éducation populaire à faire maintenant au Québec sur le conte pour déconstruire ça. Pour faire une espèce de contrepoids puis dire « Hey, mais le conte, ça s'adresse aussi aux adultes. » Et en fait, même très souvent, ça s'adresse aux adultes. Je serais curieux de savoir, statistiquement, sur les spectacles de contes qui sont présentés à grandeur du Québec, c'est quoi le pourcentage qui s'adresse vraiment juste aux jeunes? Et je pense pas que ce soit une majorité. Alors, il y a ça un peu à déconstruire. Moi, je sens que je me bats contre ça comme n'importe qui, mais encore, je suis pas une femme. Parce que pour en avoir parlé à des amies conteuses, quand t'es une femme, on dirait qu'on associe tellement plus. Il y a une espèce d'amalgame qui se fait beaucoup plus facilement. Si t'es une conteuse, on te soupçonne de faire du conte jeunesse. J'essaie de lutter contre ça du mieux que je peux, contre ce cliché-là. Sans quoi, j'aurais pas de public. Si je suis juste un public jeunesse, j'arriverai pas à vivre et puis j'arriverai pas à avoir du fun avec ce que je fais parce que c'est pas le public avec lequel je suis habile. J'ai pas la même complicité qu'avec un public adulte. Mais entre autres, moi, chez nous, à mon spectacle, La Petite Grève, j'ai fait le spectacle à 8 heures le soir en espérant que ça filtre un peu, que ça donne un peu une idée que ça s'adresse à un public qui est encore debout à cette heure-là, donc ça fait le ménage. Je suggère même aux gens d'amener leur consommation pour donner une espèce d'idée festive du conte où est-ce qu'on s'éloignerait du jardin d'enfants. Mais malgré ça, on a quand même souvent la surprise du public qui vient de voir après puis qui te dit « Hey, vraiment... ça s'adressait à nous, je suis un peu surpris. Je pensais que c'était pour enfants, tu sais, mais qu'est-ce que tu faisais là de bord? Je sais pas, je prenais une chance. Hein. » Alors ouais, prenez des chances. Il y a du conte au Québec qui s'adresse à des adultes, il y a du conte qui s'adresse à des ados, il y a du conte, c'est pour tous, ça c'est sûr. Tout le monde cherche un peu sa niche là-dedans, alors il se crée de tout. Un autre cliché contre lequel on travaille, c'est la chemise à carreaux. C'est pas un obstacle en soi, ou sinon pas plus que n'importe quel préjugé. Le conte, l'idée de conteur, et souvent une idée de conteur et non pas de conteuse, c'est le conteur de camps de bûcherons. Et c'est vrai que ça a fait partie de notre patrimoine au Québec. Dans les camps de bûcherons, des fois on engageait certains bûcherons qui n'étaient pas yobs, mais qui étaient bons conteurs, voire même des fois on engageait des gens qui étaient que conteurs pour aller faire du camp de bûcherons pendant une couple de semaines pour divertir le monde là-bas, pour lutter contre l'ennui dans cet éloignement-là. Et immanquablement, on a généré l'image du conteur qui a une grosse barbe, qui a une chemise à carreaux, voire même une ceinture fléchée. Et il joue peut-être du violon parce que c'est moins gros qu'une guitare et ça s'amenait mieux d'un camp de bûcheron. Il jouait de la guimbarde. Il y a cette image-là qui convient vraiment pas à tout public, qui n'est pas attractive pour n'importe qui. Ça fait pas très punk comme image. Et si c'est ça l'image que tu as en tête quand je te dis ce soir, il y a un spectacle de conte, ça se peut que tu me fermes la porte au nez. Ça se peut que tu n'aies pas envie, toi, de cette espèce de folklore-là, de look de cabane à sucre, alors que ce cliché-là correspond peut-être pas du tout à ce que j'ai à offrir, moi. Ceci dit, moi, je serais mal placé pour parler. Oui, je suis un homme, mais j'ai pas de grosse barbe ou de chemise à carreaux, encore moins de violon ou n'importe quel instrument de musique. Moi, je suis là pour compter. Mais malgré tout, j'ai tapé dans le mille du cliché. Tu sais, je me suis servi du cliché en allant compter sur le bord d'un feu parce que, justement, je me disais que ça correspondait à un imaginaire populaire, que ça correspondait à une vision romantique qu'on a du conte quand on était dans les scouts, quand on était jeune, quand... Et ça me sert très, très bien, mais j'imagine que ça me prive d'une certaine part de public qui n'a pas envie de ce cliché-là. Un autre obstacle serait la proximité. J'en ai parlé à plein de moments dans mes autres épisodes, mais la proximité, moi, c'est quelque chose que je souhaite avec le public. Et la plupart du temps, ça t'aide à travailler, ça m'aide, moi, à déployer le conte d'une manière qui est plus authentique. Mais des fois, cette proximité-là, elle vient jouer contre nous. Je me rappelle qu'au début de ma pratique, je parlais beaucoup avec les gens avant le spectacle. J'étais sur le bord de mon feu, j'allumais mon feu, les gens me posaient des questions, je répondais, j'attendais avant d'allumer mon feu. J'étais en discussion constante et puis à un moment donné, j'allumais le feu puis je commençais mon histoire sans qu'il y ait eu une transition marquée. Alors, c'était un long glissement entre Pat qui jase puis Pat qui se met à te conter une histoire. Et les gens aimaient bien cet effet-là, mais en même temps, ça me créait un peu un problème. Ou est-ce qu'on dirait que je perdais une certaine forme d'autorité qui est peut-être nécessaire à un minimum de décorum? Dans une trop grande proximité, ça créait qu'il y avait plein de gens qui osaient intervenir dans mon conte, comme si c'était encore une discussion dans laquelle tu pouvais prendre la parole. Je me souviens qu'au début, je pense que ça faisait 3 ou 4 ans que je comptais, et dans un de mes spectacles, à un moment donné, je marque une espèce de pause dans une de mes phrases, je sais pas, mais ça a créé une porte par laquelle il y a quelqu'un qui est passé. Il y a un spectateur qui s'est levé et qui a dit « Hey, c'est drôle que tu parles de ça, ça me rappelle une histoire. » Et il s'est mis à nous conter une histoire où est-ce que des vieux se faisaient voler du bois de chauffage puis qu'ils s'étaient mis à cacher des cartouches de fusil pour que ça pète d'un poêle pour plus se faire voler de bois. L'anecdote était bonne, mais visiblement, j'avais manqué de clarté dans le contrat qu'on avait entre nous tous. Et le contrat était « Il y a du monde qui se sont déplacés pour venir voir ce spectacle-ci. » Je le dois un peu de livrer mon spectacle et non pas le tien. Peux-tu te rasseoir, s'il vous plaît? Alors, la proximité avait joué contre moi. C'était un petit peu trop convivial. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans des classes quand quelqu'un compte avec... Ça m'arrive des fois, je déteste ça. Quand on me fait compter, genre, devant des premières années. Oi, oi, oi. Eux, la proximité, ils sont forts avec ça. Puis à tout moment, ils vont interrompre ton histoire pour te demander « Mais c'est où que t'habites, toi? » Tu sais, il y a vraiment cette impression-là qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de quatrième mur que tu peux te lever pour me tirer le coin de la manche pour me poser une question à tout moment. Et on joue un peu avec le feu quand on travaille avec cette proximité-là. Il y a le défi du vrai amateur, de la personne qui pose le geste de compter, qui prend des contrats de compte, mais qui n'aura pas un spectacle d'une certaine qualité. C'est du monde qui s'essaie. C'est hyper accessible. Quand tout le monde, grosso modo, est capable de prendre la parole, trouve-toi une histoire, puis dis-la, puis c'est fait. Ce qui fait qu'il y a bien du monde qui ont vu du spectacle de conte fait par du monde qui n'était pas du tout en contrôle de ce qu'il était en train de faire. Ce qui fait qu'il y a du monde qui ont scrappé des oreilles. Il y a des conteurs-conteuses qui ne maîtrisent pas encore le geste, mais en même temps, il faut que tu te fasses la main à quelque part, fait que c'est un grand débat. Mais clairement, il y a du public qui s'est fait briser parce que la première fois qu'ils ont été voir du conte, ils sont tombés sur quelque chose qui n'était pas bon. Alors, plus jamais le monde ira voir de conte. Ce monde-là ira voir de conte. Là, je dramatise beaucoup la chose, mais c'est justement un des autres obstacles du conte, c'est que c'est quand même une discipline artistique qui est, en tant que discipline, si on veut, professionnelle, c'est assez récent. Tu sais, c'est un geste qu'on pose dans les maisons, dans les cavernes, je veux dire, depuis la nuit des temps. Conter, c'est pas nouveau, mais en faire un métier... professionnaliser, ça c'est nouveau. Et il y a 1000 styles de conteurs. Ça se peut que, bon, toi, t'es plus, si on veut faire des amalgames, là, toi, t'es un peu plus proche, on va dire, du stand-up comique dans ta manière d'interagir avec le public. Ah, toi, t'es plus proche du théâtre, tu joues beaucoup avec les éclairages, les costumes. Ou toi, tiens, c'est plus lyrique. C'est quasiment du slam ou, tu sais, très poétique, ta manière d'articuler, d'énoncer, de faire jaillir des images. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Le problème, comme c'est une discipline qui est récente, eh bien, le public, il ne sait pas nécessairement qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, dès qu'il a été voir quelqu'un, quelqu'une, compter, eh bien, s'il n'a pas aimé ce qu'il a vu, pas nécessairement à cause du calibre, mais à cause du style, eh bien, il va se dire « j'aime pas voir le conte ». Je vous donne l'image parfaite, ce serait la musique. Ben, je dis parfaite, je ne veux pas me donner des fleurs, là, mais si tu vas voir de la musique, tu vas voir un show, je ne sais pas, country. et t'as adoré. Ben, tu vas pas dire nécessairement « j'adore la musique », tu vas dire « j'aime le country ». Mais à l'inverse, tu as été voir de l'opéra et t'as détesté, eh bien, tu vas pas dire « je déteste la musique, j'irai plus jamais écouter de musique de ma vie ». Non, tu sais qu'il y a différents styles. Dans le conte, il nous manque une espèce de... Tu sais, c'est drôle, notre job, c'est de parler, puis il nous manque un vocabulaire là, pour se définir entre nous, pour se catégoriser, mais en même temps, c'est que c'est assez fluide, tu promènes d'un style à l'autre des fois. Tu sais, si tu savais que, bon, Patrick Dubois, c'est un conteur aromatique, je sais pas moi, souple et sucré, pour reprendre les pastilles de goût de la SAQ, eh bien, si tu as aimé ton expérience avec moi, ça va te donner envie d'aller voir d'autres conteurs aromatiques et doux, je sais pas, tu sais, de la même pastille de goût. Ça t'aide à avoir un comportement de dégusteur, dégustrice, dégustateur, triste, heureux. Fait que, un des obstacles au conte en ce moment, c'est son jeune âge de ce marché, de ce milieu artistique-là, je crois. Ceci dit, on peut voir ça de l'autre côté puis se dire que ben, tout est encore possible. T'sais. Fait que c'est peut-être un potentiel. Et le dernier obstacle que je vois pour le conte, c'en est un qui est de plus en plus sur la table, qui est de plus en plus discuté par plusieurs conteurs-conteuses. Et c'est le contenu même des contes de répertoire, c'est-à-dire des vieux contes qui ne sont pas des contes de création. Il y a toutes sortes de valeurs dans des contes. C'est un peu des codes de notre société qui sont là. Chaque conte peut un peu te servir à comprendre comment tu dois te comporter. Et il y a quand même des valeurs qui ont un certain décalage, des trucs hyper misogynes. J'en ai parlé plein de fois, mais des personnages féminins qui sont juste des trophées. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quand même notre matière première qui est contaminée par des choses desquelles on souhaite se libérer, s'affranchir. Et en même temps, il y a plein de gens hyper pertinents qui disent que le lait, dans certains contes, est essentiel. Que le geste doit être commis coûte que coûte. Que dans cette histoire-là, l'enfant doit absolument être abandonné par ses parents sans qu'on justifie pourquoi ses parents l'ont abandonné. Pour ensuite reconstruire, réparer ce qu'on a à réparer, mais il faut toujours bien qu'on brise de quoi. Et si on justifie le parent dans cette histoire-là, eh bien, on est en train de moins briser l'affaire, donc de moins le réparer. On a besoin d'avoir des méchants pour les vaincre. Et je trouve que c'est une piste vraiment intéressante. Ceci dit, il y a quand même des affaires que j'assume pas de dire qui sont portées par certains contes. Et ça demande toute une habilité, venir distiller des contes, venir en chercher seulement une essence en particulier, parce qu'il y a quand même du beau. Il y a quand même du beau dans à peu près toutes les histoires, mais facilement, il y a des traits desquels tu veux débarrasser cette histoire-là. Il y a un ménage à faire et ça prend une grande agilité pour enlever sans blesser l'histoire, pour venir la dégriffer, si c'est ça que tu souhaites, sans y amputer à patte au complet puis qu'elle n'aille plus nulle part. Tant qu'à avoir commencé dans cette image-là, et des fois, tu te rends compte que, merde, non, ce conte-là, j'arrive pas à le faire fonctionner si je laisse pas ce personnage-là avoir ce comportement-là et j'ai pas envie de faire la promotion de ça, donc on va abandonner ce conte-là. Il y a quand même de ça. Et pour les conteurs-conteuses qui vont chercher le conte dans des archives, en lisant des centaines de livres, ça devient un travail colossal de filtrer toutes les contes qui sont mauvais pour tomber finalement sur celui qui est bon, sur celui qui va te parler. Il y a une espèce de censure par la masse qui est faite dans la quantité de contes qu'on a archivés. Et ça, moi, je pense que c'est un obstacle pour le travail de plusieurs. Moi-même, qui collecte un peu plus sur le terrain, au bouche à oreille, faut que j'entende combien d'histoires qui ne m'interpellent pas tant que ça avant d'en entendre une qui me donne envie de la porter moi aussi. Mais c'est un peu ça le jeu. Et finalement, on est peut-être autant des chercheurs d'histoire que des porteurs d'histoire. Alors voilà pour mon bref épisode sur les obstacles du conte. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Marceneau. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon, et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.